France Culture.
Et les midi, deuxième partie, bien c'est parti. Tout à l'heure, à partir de 13h, je recevrai le metteur en scène Thomas Quillardet. Mais tout de suite, c'est le retour de Marie Sorbier pour le Point Culture cette fois.
Bonjour à tous. Les chiffres de vente en librairie sont-ils le signe que la France penche à droite? C'est le thème d'une tribune de Michel Guérin dans Le Monde, publiée fin janvier, qui rappelle que à l'heure où un roman ou même un essai peine à atteindre les 10 000 exemplaires, les livres politiques signés par des femmes et des hommes de droite, eux, s'envolent. La bataille culturelle a-t-elle lieu dans les librairies? C'est le dossier du Point Culture du jour. Erwan Lecoeur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, enseignant-chercheur à l'Université de Grenoble. Les chiffres de vente des livres de droite et d'extrême droite sont spectaculaires. Hein. 200 000 ventes pour Nicolas Sarkozy, 320 000 pour les deux livres de Jordan Bardella, plus de 400 000 pour les derniers ouvrages de Philippe de Villiers. Comment analysez-vous sociologiquement cette performance éditoriale pour des auteurs d'extrême droite? Est-ce qu'on peut dire que ce phénomène est sans précédent?
Oui, on peut le dire, je pense, en tout cas, pour la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, et en France, on peut dire que c'était assez inédit. En effet, il y a deux ou trois phénomènes qui se conjuguent. D'abord, il y a une progression culturelle de l'extrême droite en France avec, je dirais, un effet médiatique, que l'on pourrait appeler médiatique, parce qu'il y a derrière ces succès de librairie tout un système, tout un des rouages, dirais-je, à la fois des maisons d'édition, un système de diffusion également, avec les relais hein, dans les gares, tout un système de diffusion donc qui s'est mis en branle depuis quelques années. On pense bien sûr à ce qu'on appelle la sphère Bolloré, autour de ce milliardaire qui a beaucoup investi dans ce système. Il y a un autre phénomène culturel également, je dirais, qui est que l'acceptation d'un certain nombre de ces idées depuis les années 80 et 90 avec ce qu'on a appelé la nouvelle droite, c'est-à-dire une tendance culturelle à parler pour plaire au plus grand nombre et à gagner, je dirais, de la place, non pas seulement en politique, mais aussi dans l'imaginaire des gens, avec une vision, avec des concepts. Hein, on pense bien sûr au concept de Renaud Camus de grand remplacement, de remigration. Il y a là donc quelque chose qui a été mené, comme dirait Gramsci, hein, une bataille culturelle avec des mots, du vocabulaire qui est rentré dans le langage courant et qui semble acceptable. Et puis enfin, il y a un troisième phénomène, c'est que ces chiffres sont d'autant plus étonnants que on lit beaucoup, mais on lit peu de livres politiques habituellement, et que la gauche et le centre écrivent beaucoup moins de livres. Et donc, en comparaison, c'est vrai que ces livres apparaissent comme des succès de librairie incroyables. Il n'y en a, je crois, que un ou deux autres du côté de la gauche qui peuvent un petit peu concurrencer, notamment le fameux Résister d'une journaliste récente. Et c'est assez drôle d'ailleurs à voir, puisque dans certains étalages, on voit ce petit livre Résister au milieu de tous ces livres dont vous venez de parler. Mmh.
De Salomé Sacquet. Mais par exemple, si on prend un essai d'un homme de gauche, je pense à Jean-Luc Mélenchon, je crois qu'on est à 17 000 exemplaires pour le dernier ouvrage. L'écart est considérable. Comment on explique cette différence de taille?
Alors, on l'explique de plusieurs façons. D'abord, le livre de Jean-Luc Mélenchon est beaucoup moins porté par la presse en général, et notamment par une presse qui est très organisée. Il faut bien penser à cela, c'est-à-dire que dans les années 80 et 90, quand j'ai commencé à travailler sur la question de l'extrême droite fin des années 90, la presse de gauche, disons, était beaucoup plus organisée, beaucoup plus également, je dirais, condensée. Elle travaillait, comme on dit, en meute. Quand un livre était apprécié, tout le monde en parlait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En tout cas, à gauche, il y a beaucoup de critiques. La gauche, comme on le voit en politique d'ailleurs, ne cesse de se critiquer les uns les autres. Donc si vous êtes socialiste, vous n'aimez pas Jean-Luc Mélenchon. Si vous êtes mélenchoniste, vous n'aimez plus les socialistes que vous traitez de traîtres. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une gauche qui, comme la droite des années 80-90, se disloque, se déteste. L'amour des petites haines, hein, j'ai coutume d'utiliser ce terme, dans tout ce qui est gauche et centre. Alors qu'à l'extrême droite, eh bien, ils ont réussi ce que Maurras appelait le front national, hein, c'est-à-dire faire front, être tous ensemble pour accéder au pouvoir. Et c'est bien ce que l'on voit depuis quelques années, que ce soit la droite, je dirais un peu dure, et l'extrême droite, ont passé à une sorte de pacte, alors qu'ils se détestent cordialement habituellement. Ils ont passé un pacte, et ça se ressent également dans le domaine culturel, dans le domaine de l'édition, mais aussi dans le domaine médiatique en général, hein, c'est-à-dire que sur les plateaux de télévision, on voit bien que des gens qui, auparavant, n'avaient rien à se dire, aujourd'hui disent à peu près tous la même chose.
Un autre acteur de ce phénomène éditorial, ce sont bien sûr les librairies. Alors je voudrais qu'on commence par les librairies indépendantes. Il y a, pour certains en tout cas, une tension entre éthique professionnelle, c'est-à-dire choisir les livres qu'on vend, et une réalité commerciale, puisqu'on vient de le dire, ces livres-là se vendent beaucoup. Est-ce que vous pensez que les libraires ont encore une marge de manœuvre réelle dans ce contexte-là ?
Il y a en effet un autre problème que vous notez, c'est le problème économique des libraires indépendants qui sont de plus en plus tenus à vendre un certain nombre de livres qui fonctionnent ailleurs. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée notamment de la vente des livres en ligne, on pense bien sûr aux géants Amazon, mais à d'autres également, on peut aujourd'hui acheter ces livres en ligne. On n'est plus obligé d'aller voir un libraire qui, en général, est, il faut bien le dire, quelqu'un qui est plutôt très éduqué, qui a fait des études et sociologiquement donc plutôt de gauche. Ça, c'est une réalité. Les gens plus éduqués sont plutôt plus à gauche. Traditionnellement, nous avons des enquêtes nombreuses sur le sujet. Et donc aujourd'hui, les gens ne sont plus obligés d'en passer par leur libraire de quartier pour aller acheter le livre de Jordan Bardella ou de des autres que vous avez cités. Donc on les achète en ligne et ensuite on va les faire éventuellement signer par l'auteur. On fait des longues queues. Parce qu'il y a aussi un autre phénomène dans cette droite-là, une droite très radicale, c'est un phénomène d'engouement vers une sorte de victoire de ce que je vais appeler le camp des réprouvés depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi un phénomène qui est de l'ordre d'une sorte de vengeance sociale et culturelle, où ces gens qui lisent assez peu de livres en général vont acheter un livre parce qu'il est le symbole de quelque chose, comme on achète une voiture pour se donner, je dirais, une conscience de classe, pour évoluer dans la sphère sociale. Et bien le livre, c'est un peu cela aussi, c'est une sorte un peu pour eux de vengeance. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le lire forcément, mais souvent ils vont le lire quand même. Et ce sont bel et bien ces livres-là qui se vendent énormément, soit en ligne, soit dans les relais, je le disais, dans les gares ou dans d'autres types de librairies.
Oui, justement, les magasins relais, c'est une autre bretelle de toute cette histoire. Il y en a à peu près 450, ils sont contrôlés par Bolloré depuis 2022. Beaucoup de ces livres, souvent publiés chez Fayard, sont mis en évidence. En quoi ce réseau relais constitue-t-il un levier spécifique dans la diffusion de ces idées ?
Alors, pour le coup, sociologiquement, c'est absolument énorme. C'est-à-dire que les magasins relais sont la vitrine absolue, que vous le vouliez ou non. Moi-même, qui suis sociologue et qui voyage beaucoup pour des conférences ou des interventions à travers la France, je suis absolument subjugué par le nombre de choses qui me viennent à l'esprit par le biais de ces relais que je croise régulièrement. Et même si je n'y achète pas forcément de livres, je vais voir la presse. Et donc, je suis très fortement impacté par la manière dont ils mettent en scène les différents livres. Et ces derniers temps, c'est vrai que je prends en photo, pour les besoins de mes travaux notamment, les étalages. Et je vois bien qu'il y a eu une tendance très, 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 très forte et très notable et orientée vers la droitisation, voire l'extrême droitisation de ces relais. Et donc, je pense que ça a un impact assez phénoménal, tout simplement parce que c'est ce que les gens voient tous les jours quand ils prennent le train, quand ils voyagent, quand ils vont voir leur famille ou ailleurs. Eh bien, c'est ça, les livres qu'on va acheter rapidement, c'est les livres qu'on va voir très, très efficacement. Eh bien, donc, la mise en scène de ce que, aujourd'hui, les gens veulent lire ou sont supposés lire, va beaucoup jouer dans le succès, évidemment, de librairie de ces gens-là. Et il ne faut quasiment plus parler de succès de librairie, mais de succès de littérature de gare, comme on en parlait à une époque. Aujourd'hui, on n'achète pas un polar, on achète le dernier livre à la mode pour savoir de quoi tout le monde parle à la télé, ou en tout cas sur certaines télévisions et sur les réseaux sociaux. C'est un distributeur que M. Bolloré a racheté. Donc c'est ce distributeur qui va donner ses chiffres, qui va installer les livres, et donc toute la chaîne commerciale est tenue par pratiquement un seul homme, et cette chaîne commerciale va fonctionner à plein régime. Et c'est cela qui fait qu'en effet, on trouve dans les relais un certain type de livres qui sont édités par un certain type d'éditeurs et proposés par un certain type de distributeurs de presse et de livres. Donc oui, toute la chaîne commerciale forme un tout, ce tout est cohérent et ce tout va avoir un impact phénoménal. Cela s'appelle du marketing, c'est une autre forme de communication.
Bien, merci beaucoup Erwan Lecoeur.
Je vous en prie.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, des victoires de la musique plus féminine qu'à l'accoutumée qui ont couronné la chanteuse Théodora.
Oui, alors que 21 des 34 nominations revenaient à des artistes féminines, cette 41e édition a été marquée par le triomphe de la chanteuse Théodora qui a remporté 4 récompenses, album de l'année, révélation scène, révélation féminine et victoire du clip de l'année. À 22 ans, la franco-congolaise Théodora est parvenue à s'imposer rapidement comme l'une des chanteuses les plus écoutées de ces 2 dernières années, grâce à ses chansons à la croisée du rap et de la pop. Autres artistes récompensés lors de cette cérémonie, Charlotte Cardin et Diziz, qui ont reçu respectivement le prix de la meilleure artiste féminine et du meilleur artiste masculin de l'année. Et le jeune chanteur Sam Sauvage a lui été sacré révélation masculine de l'année. Enfin, une victoire d'honneur a été décernée à la chanteuse grecque Nana Mouskouri, âgée de 91 ans, pour l'ensemble de sa carrière.
On la félicite. Merci Marie. On se retrouve demain.
À demain.
Pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h et vous écoutez France Culture.